2. Ben, pourquoi elle me dit... Bon. Donc, 1, 2, 3. Voilà, on va commencer notre Zoom. Et je voulais d'abord faire une petite introduction. Le sujet que vous avez choisi ce soir, et on va en parler bien sûr, c'est comment je vois ce qu'on appelle la délivrance finale. Mais d'abord, je voulais faire une petite introduction. Vous savez que finalement, vous êtes le premier groupe de Bnei Adam avec lequel j'ai commencé il y a déjà maintenant quelques années. C'était Monsieur et Madame Rocker qui ont pris l'initiative de lancer ce groupe qui s'est développé grâce à Dieu. Et vous vous rappelez que j'avais dit déjà il y a quelques années que finalement on était en train de planter des graines qui un jour donneraient un arbre et donneraient des fruits. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se réaliser. Bon, on est encore très loin des fruits, parce que les fruits, c'est la délivrance finale. Mais l'arbre commence à pousser, comme vous le savez. Et vraiment, sincèrement, ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Je ne vais pas aller ni en Afrique, ni en Indonésie, ni au Québec, ni dans tous ces endroits-là pour dire, est-ce que vous voudriez m'écouter? Mais il y a aujourd'hui vraiment une révolution inimaginable dans le monde entier. Et j'avoue presque, j'en suis presque à 2 ou 3 zooms par jour aujourd'hui. Et je suis extrêmement, extrêmement sollicité par des Bnei Adam de pratiquement tous les pays de langue française, même parfois de langue étrangère comme l'Indonésie, où je parle en français et on me traduit. Et finalement, je voulais vous dire que vous êtes, d'une certaine manière, vous, ce groupe, les responsables de ce réveil absolument incroyable qui est en train de se passer dans le monde. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit de langue française où je n'ai pas des contacts, même dans les îles les plus éloignées, comme vous le savez, Madagascar, La Réunion. Je commence à avoir des contacts aussi avec la Guadeloupe, la Martinique. Ça ne s'est pas encore vraiment concrétisé, mais en tout cas, j'ai des demandes. Et tout a commencé avec vous. Tout a commencé avec Monsieur et Madame Rocker. Et je ne me suis pas trompé quand j'ai dit qu'on était en train de planter une graine qui peut-être un jour se multiplierait, se multiplierait, se multiplierait. Et rien qu'en langue française aujourd'hui, si je rajoute d'autres rabbanim qui enseignent aussi, c'est vraiment des centaines de milliers de Bnei Adam de partout dans le monde, en langue française bien sûr, car si on rajoute l'anglais, l'américain, l'espagnol, le russe, je pense qu'on peut parler de millions, sans exagérer, de millions de Bnei Adam partout dans le monde qui se réveillent et qui se rapprochent de la Torah. Et en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous, ça a commencé avec votre groupe. Et encore une fois, avec Monsieur et Madame Rocker qui ont pris l'initiative de faire tout ce travail qui aujourd'hui s'est développé d'une manière inimaginable. Et je tenais vraiment à vous remercier très, 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 très sincèrement, avec vraiment le plus grand respect pour cette graine qui a été plantée dans le sol de la délivrance et qui, encore une fois, est véritablement l'arbre qui donnera les fruits de la délivrance finale. Et ça correspond d'ailleurs tellement avec le cours que vous m'avez, enfin avec la discussion que vous m'avez suggérée, qui est notre vision à nous. Je dis en vérité, j'exagère, ma vision à moi, parce que comme vous le savez, le propre de l'homme, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux hommes qui pensent la même chose. Si ce sont des hommes authentiques, chacun malgré tout a sa nuance, sa vision des choses. Et même si plus ou moins on va dans le même sens, malgré tout, il est absolument inconcevable de trouver deux hommes authentiques qui disent et qui pensent exactement la même chose, parce que chaque homme a sa sensibilité, a son tempérament. Et donc, automatiquement, ce que je vais dire, c'est ce qui me concerne moi, en sachant que beaucoup d'autres pensent plus ou moins selon ma vision des choses. Mais en tous les cas, je m'engage moi dans ce que je vais dire. Je vais commencer par, on pourrait dire, un aspect un petit peu négatif pour arriver petit à petit à la véritable vision de ce que sera la délivrance finale. Comme vous le savez, la notion de délivrance finale est une notion religieuse. Elle existe dans toutes les religions et même dans les religions entre parenthèses idolâtres, comme le bouddhisme. Enfin bon, le bouddhisme n'est pas vraiment idolâtre, j'exagère, mais en tous les cas, toutes les religions pratiquement, le christianisme bien évidemment, Jésus est censé revenir, l'islam n'en parlons pas, que ce soit l'islam chiite ou l'islam sunnite. Et bien sûr, il faut le reconnaître, les premiers qui ont été à l'origine de cette vision de la délivrance finale étaient bien sûr Israël. Et après, ça s'est propagé dans le monde entier. Le grand, grand inconvénient du fait que la notion de délivrance finale émane des religions, c'est que pour 99% des croyants et des religieux, y compris chez nous, peuple juif, et je suis bien placé pour le savoir, on a une vision complètement, on pourrait dire, complètement illusoire, complètement déconnectée de la réalité de ce que sera le Mashiach et du travail qu'il fera. On le voit comme un Superman, on le voit comme le Fils de Dieu pour les chrétiens, on le voit comme un Superman chez les juifs ou chez les musulmans aussi. On le voit comme quelqu'un qui va arriver avec une baguette magique et qui va faire deux petits coups de baguette magique et qui va transformer le monde entier. J'exagère, mais il y a une vision très religieuse, donc très métaphysique, très mystique, très au-delà de la réalité qui présente le Mashiach et son travail. Je pense que ceux qui suivent mes cours le savent, il est vrai que ces derniers temps, j'insiste beaucoup sur ces notions anti-religieuses. Parce que on vit dans une époque aujourd'hui où on pourrait dire la laïcité d'un côté et la religion de l'autre sont en train de prendre un pouvoir inimaginable qui, les deux, d'une certaine manière, sont en train de détruire, on pourrait dire, l'homme authentique, que ce soit la dimension laïque qui nous a vidés de toute intériorité en nous plongeant dans un monde virtuel, toute la technologie d'aujourd'hui. Regardez toute la jeunesse aujourd'hui, elle est toute la journée sur son portable avec Instagram, avec Facebook, avec ci, avec ça. Et puis bon, la dimension religieuse aussi est extrêmement, extrêmement dangereuse parce qu'elle nous maintient dans un nuage complètement utopique, complètement, on pourrait dire, irréel. Comme une drogue qui nous fait aspirer à des fantasmes qui ne se réaliseront jamais. C'est vrai pour toutes les religions, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive et quantité d'autres. Les religions, malheureusement, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, aussi incroyable que ça puisse être, les religions ont le même point commun. C'est le venin du serpent qui veut détruire l'humanité tout entière. Pourquoi? En nous faisant vivre dans une bulle imaginaire, dans un espoir qui ne se réalisera jamais, pour finalement nous maintenir dans une situation de croyance qui ne repose sur rien dans la réalité. Je parle des religions, je ne parle pas de la Torah. Malheureusement, comme je l'ai enseigné déjà de nombreuses fois dans mes derniers cours, la vraie Torah est complètement cachée, elle a pratiquement complètement disparu du peuple juif. Dans chaque génération, il y a peut-être une dizaine de maîtres authentiques qui sont encore attachés à la vraie Torah, mais 90% du peuple juif croyant est attaché à la religion juive, qui n'a pas beaucoup de différence avec la religion chrétienne, la religion musulmane, n'importe quelle religion. C'est uniquement la forme qui change, mais le fond, ça reste le même, faire vivre l'homme dans une utopie, dans un fantasme qui ne se réalisera jamais. Et donc, je reviens maintenant à notre sujet, la présentation de la délivrance finale, puisque la source, c'est une source religieuse, les laïcs ne croient pas dans la délivrance finale, c'est un phénomène uniquement religieux qui aujourd'hui est d'une certaine manière dans toutes les religions, même le bouddhisme parle aussi à sa manière de la délivrance finale. Et le problème, encore une fois, c'est que comme la vision de la délivrance émane des religions, donc c'est une vision qui est complètement déconnectée de la réalité. Encore une fois, je me répète, excusez-moi, va venir un super-homme ou va venir le Fils de Dieu avec une baguette magique, tac, 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 et puis tout va s'arranger. Et tous les imbéciles croient en cette imbécilité. C'est pas vrai. Ça ne se passera pas comme ça. On a suffisamment chez nous de maîtres authentiques qui ont eu le courage d'aller à contre-courant, comme Maïmonide, par exemple, qui, comme on le sait, à son époque, était vraiment un homme qui allait à contre-courant. D'ailleurs, à tel point que beaucoup de rabbanim, surtout des rabbanim français, ont pris tous ses livres et ont fait une auto-da-fé de ses livres, mais ils ne le connaissaient pas encore vraiment. Et quand, avec le temps, ils se sont rendus compte de qui était Maïmonide, qui vivait en Espagne, ils sont partis à pied pour aller s'excuser devant lui d'avoir brûlé ses livres. Et il y a eu d'autres, dans chaque génération, il y a toujours eu, en tous les cas chez nous, Israël, des maîtres qui allaient à contre-courant, qui étaient extrêmement critiqués par l'établissement religieux, parce qu'ils n'acceptaient pas de rentrer dans le système qui est là pour endormir les gens, leur faire croire à tous ces fantasmes des religions. Et on en a eu dans chaque génération. Le Baal Shem Tov était extrêmement critiqué, Rabbi Nachman de Breslev était extrêmement critiqué, le Rabbi Lubavitch, d'une certaine manière, était aussi pas mal critiqué par une grande partie de l'établissement de religieux et quantité d'autres. Et pourquoi ? Parce que, comme je l'ai toujours expliqué, la vérité va toujours à contre-courant de la majorité. Là où est la majorité est le mensonge. Là où est la minorité est la vérité. Et donc, c'est très dur de faire le choix de la vérité parce que je n'ai pas envie d'être seul, je n'ai pas envie d'être critiqué, je n'ai pas envie d'être marginalisé. C'est pour ça que la grande majorité des hommes et des femmes choisissent le chemin de la majorité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan religieux. Qui sont ceux qui acceptent de vivre seuls toute leur vie, d'être critiqués, d'être maudits, d'être insultés? Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais ça, c'est le choix que nous devons faire dans ce monde. Si nous voulons être un homme authentique, nous devons absolument sortir du système et aller à contre-courant. C'est vrai chez les Juifs, c'est vrai chez les chrétiens, c'est vrai chez l'islam et c'est vrai partout dans le monde, que ce soit sur le plan religieux ou politique, mais là je parle du plan sur le plan religieux. Et donc, la vision authentique des maîtres authentiques d'Israël concernant la délivrance finale est à l'extrême opposé de la vision religieuse. Le Mashiach ne sera pas le Fils de Dieu, ça ne sera pas un Superman, ça ne sera pas un magicien, ça ne sera pas un ange transformé en homme qui, avec trois coups de baguette magique, va arranger le monde. Ça sera un homme comme vous et moi. La différence entre lui et nous, c'est que ça sera un homme qui aura une prise de conscience de la réalité vraie et de tous les problèmes qui se cachent dans la réalité, de toute la perversion au niveau des dirigeants, de toutes les perversions financières, de toutes les perversions au niveau individuel. Il prendra véritablement conscience de tout le mal qui se cache derrière la belle vitrine de la démocratie et du monde occidental. Et ça sera le premier à décider de véritablement essayer de changer le monde, de le transformer. Et en dans la deuxième étape, il essayera de recréer l'unité entre tous les hommes du monde. Commençons par la première étape. Un homme qui va prendre conscience que le monde va mal, que le monde va très très mal. Aujourd'hui, alors évidemment, l'occidental classique qui se dit « je gagne bien ma vie, j'ai deux voitures, je vais au restaurant, j'ai des vacances », évidemment, lui se dit « vive la démocratie ». Mais en vérité, il ne se rend pas compte à quel point il est vide, complètement vide. Il n'a rien, 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 rien. Il ne sait même pas pourquoi il existe. Un homme qui prend un petit peu conscience dans quelle situation on vit aujourd'hui se rend compte que le monde est en train de s'écrouler complètement. On est à la veille de la fin d'une civilisation. Exactement comme toutes les civilisations les plus puissantes qui ont disparu, babylonienne, perse, grecque, romaine, aujourd'hui le monde occidental est en train plus ou moins de toucher à sa fin. Ça prendra encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je sais que je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que l'homme est complètement vide. On l'a vidé de toute idéologie, de toute vérité. Regardez la nouvelle génération, vous le voyez aussi bien que moi. Quelle est la préoccupation de la nouvelle génération aujourd'hui? Instagram, et si, ça, Facebook, se faire des selfies, se faire de. Bon, apprendre un métier pour gagner du fric, pour pouvoir profiter de la vie, et c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, 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 rien. Et donc, on est en train de vider, d'une certaine manière, la nouvelle génération de toute notion d'authenticité. On est en train de détruire le couple. On est en train de mettre en évidence l'homosexualité, les lesbiennes, la destruction du couple, on n'a plus besoin de se marier, tu es une femme, tu veux un enfant, qu'est-ce que tu as besoin d'un homme? Tu as une éprouvette dans l'hôpital, tu peux te faire un enfant tout seul, tu n'as plus besoin d'un homme, l'homme c'est juste pour s'amuser, mais pour faire des enfants, tu n'as pas besoin de lui. Ça veut dire qu'il y a toute une idéologie aujourd'hui de destruction de toutes les valeurs qui malgré tout, plus ou moins, ont tenu le monde jusqu'à aujourd'hui. Le couple, la famille, les enfants. Et avoir malgré tout un minimum de sens à la vie. Je ne dis pas que le sens qu'il y avait à la vie il y a 100 ans ou 200 ans ou 300 ans était un sens authentique à 100%. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rien. Je ne parle pas de gens comme vous, bien sûr. Mais je parle du monde en général. Il n'y a plus rien. Rien, rien, rien. On le voit en Israël, on le voit dans le monde entier. Même ici en Israël, la nouvelle génération est en train de s'écrouler. C'est quelque chose d'inimaginable. Je parle de ma génération, les jeunes de 15, 18, 20 ans, 25 ans, etc. Et toute leur préoccupation, c'est je veux kiffer, je veux m'amuser. Il y a des exceptions, bien sûr, dans chaque pays au monde. Mais dans sa grande majorité, je veux jouir de la vie, un point, c'est tout. Et c'est ça le grand problème. Alors, je ne veux pas rentrer maintenant dans trop de détails, dans trop de ci, dans trop de ça. Qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une idéologie de manière à affaiblir les hommes pour mieux les dominer? Bon, ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Le Mashiach est un homme dans le sens le plus humain, un homme qui va ouvrir les yeux, un homme qui va prendre conscience dans quelle situation se trouve le monde. Et il va commencer à réunir autour de lui, parce qu'il aura un charisme, il aura une force dans le sens de l'authenticité, il va commencer à réunir autour de lui de plus en plus d'hommes et de femmes qui commenceront à se réveiller et prendre conscience que le monde va à la catastrophe. Parce que véritablement, le monde va à la catastrophe. Et ne croyez surtout pas que tous les progrès technologiques vont améliorer notre vie. Pas du tout. Plus la technologie avance et plus l'homme va devenir inutile. Je ne sais pas si nous, on le verra encore, mais ce que je dis est absolument vrai. Dans 50 ans au plus, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. Tout, c'est sur le téléphone ou sur l'appareil qu'ils nous donneront. Tout se fera par commande. Les hommes seront isolés les uns les autres. Il n'y aura plus de moyens de se réunir, d'être ensemble. Ils vont tout annuler. D'ailleurs, en Israël, il y a déjà un essai. Il y a un magasin à Tel Aviv où tout est électronique. Il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus rien. Ils sont en train de faire un essai pour voir comment les gens réagissent. Et donc, aujourd'hui, en Israël, vous ne pouvez plus rentrer dans une banque. C'est tout se fait par des applications sur le téléphone. Il n'y a plus de contact avec rien. Parce que bon, on sait qu'Israël est un pays qui, sur le plan technologique, est hyper, hyper à l'avance. Mais malheureusement, on en subit des conséquences terribles. Il y a encore jusqu'à 5 ans, 6 ans, j'avais un problème banquier, je rentrais à la banque sans rendez-vous, je m'assieds devant quelqu'un et voilà, je lui parlais. Aujourd'hui, c'est impossible. En Israël, toutes les banques sont fermées. C'est que de la technologie. Je ne sais pas à quel point c'est en Europe déjà comme ça, mais en Israël, c'est de la folie. Et ce n'est pas que les banques. Toutes les administrations sont fermées. Tu peux aller nulle part. Tu as des applications sur ton téléphone. Donc, tu parles avec du virtuel. Mais ça va se répandre dans le monde entier. Quelle est l'intention? D'isoler les hommes. Il n'y a plus de rassemblement. Il n'y a plus de regroupement. Chacun est seul avec son portable. Et comme ça, on affaiblit le monde. Le Mashiach, encore une fois, va se rendre compte que la technologie est au service Bien sûr que la technologie apporte des choses extraordinaires, comme Internet. Sans Internet, on pourrait être ensemble aujourd'hui, mais d'un autre côté, tout le monde sait que Internet tue, sur le plan moral, des millions d'hommes et de femmes. Mais d'un autre côté, il y a un bon côté dans Internet aussi. Grâce à Internet, on peut communiquer avec le monde entier. Donc, dans chaque chose, il y a du bon et du mal. Malheureusement, dans la technologie, le mal est beaucoup plus grand que le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie derrière tout ça. Et encore une fois, le Mashiach est le premier homme qui va avoir le courage de prendre conscience que si on ne réagit pas, le monde sera détruit. Maintenant, le grand problème, c'est que comment il va agir? Alors, ce que nos maîtres authentiques refusent d'une manière absolue, et ce qui est malheureusement, on pourrait dire, l'hymne de toutes les religions, tout seul, il va réussir. Jamais de la vie, disent nos maîtres. C'est un homme qui, malgré sa prise de conscience, malgré son courage, malgré son don de lui-même, qu'il est prêt à mourir pour sauver le monde, il ne pourra pas réussir seul. Il aura besoin d'énormément d'hommes et de femmes dans le monde entier qui vont se réveiller, se mettre à ses côtés et accepter de se battre avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que le Zohar nous enseigne, je l'ai déjà enseigné dans de nombreux cours ces derniers temps, que les premiers qui vont se joindre au Mashiach, vous allez me dire, c'est les Juifs? Non. Le Zohar affirme, il y a 2000 ans déjà, que les premiers qui vont rejoindre le Mashiach seront précisément des Bnei Adam. Plus vite encore que les Juifs. C'est incroyable, mais c'est ce qui va se passer. Et donc, il va créer une armée autour de lui. Il y aura des Belges, des Français, des Allemands, des Suisses, des Canadiens, des Américains, des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Africains. Ça veut dire des hommes et des femmes dans le monde entier qui vont lui faire comprendre, on est avec toi. Et si tu es prêt à te battre, on est prêt à se battre avec toi. Maintenant, comment il va réussir? Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit des milliers de fois. Pourquoi les religions présentent le Mashiach comme un surhomme? Parce que les religions ont compris qu'à vision humaine, c'est impensable que le Mashiach réussisse. Comment il peut réussir? Aujourd'hui, on va lui envoyer un drone qui est grand comme une mouche, un petit gaz, et il est mort. Tous les services secrets dans le monde entier aujourd'hui, en tout cas dans le monde moderne, possède aujourd'hui des drones qui sont grands comme une mouche, elle passe à côté de toi, elle t'envoie un gaz et t'es mort. On n'a même plus besoin de tirer au revolver aujourd'hui. Les services secrets sont en avance, on ne peut même pas imaginer par rapport à la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Israël aussi possède des drones qui sont grands comme des mouches. Et un gaz mortel et c'est fini. Donc comment le Mashiach va pouvoir se battre contre toute la corruption du monde? Contre tout le pouvoir financier, politique, contre toutes les forces obscures et cachées qui sont derrière nos dirigeants, parce que nos dirigeants dans tous les pays ne sont que des poupées entre leurs mains. Comment il va se battre contre toutes les mafias du monde qui font des milliards chaque jour? Comment il va se battre contre le système? Mais le système, ils vont tous se mettre ensemble et en un milliardième de fraction de seconde, il est mort. Il faut qu'on soit un petit peu réaliste. C'est pas un ange le Mashiach. Comment qu'il va faire? Un milliardième de fraction de seconde, il va mourir. Ils vont le tuer très vite. On le sait tous aujourd'hui. Tous ceux qui ont été contre le système ont été assassinés. Martin Luther King, assassiné par la CIA, soi-disant par un taré, mais tout le monde sait que c'est la CIA qui est derrière. En Israël aussi, il y a eu des assassinats de gens qui dérangeaient, etc. Soi-disant par des Arabes, mais des Arabes qui étaient à la solde du Mossad. Et le dernier qui était contre Poutine récemment, qu'on a failli empoisonner, il est revenu aux États-Unis après avoir été soigné en Allemagne, et maintenant il est en prison. Et dans tous les pays, et Coluche en France, soi-disant un camion l'a renversé. Quel est l'idiot qui croit que c'est un camion qui l'a renversé? Non, il était en train de rentrer en politique, on l'a liquidé. Et donc, et comment s'appelle-t-il ce chanteur reggae? Oh mince. Bon, enfin, vous connaissez son nom. Bob Marley. Quand il a commencé à chanter des chansons qui étaient là pour réveiller l'Afrique, comme par hasard, quelques mois après, il meurt d'un cancer. Tant qu'il chantait des chansons reggae Bon, bien, tout le monde l'aimait. Il se met à chanter des chansons pour réveiller l'Afrique, pour faire comprendre à l'Afrique que l'Afrique est entre les mains de toutes les grandes puissances financières occidentales qui exploitent la terre africaine pour s'en mettre plein les poches. Quelques mois après, il meurt d'un cancer. Mais qui est l'idiot qui ne sait pas qui est derrière? Donc, encore une fois, on voit, il n'y a pas une exception. Et Gandhi en Inde, il n'a pas été assassiné. Dans tous les pays du monde, dès que quelqu'un va contre le système, il est assassiné. Et d'une certaine manière, même avec ma manière à moi de parler, qui était Jésus? Je ne parle pas d'une manière chrétienne, mais nous, on sait qui était Jésus. C'était un juif révolutionnaire qui a voulu se révolter contre les Romains. Les Romains l'ont crucifié. Et ça fait 2000 ans qu'on fait croire que c'est les juifs. Mais jusqu'à quand? Tout le monde sait que les Romains ont crucifié des millions d'hommes et de femmes et d'enfants. La crucifixion est un supplice romain. Qu'est-ce que les Juifs ont en vain dans la crucifixion de Jésus? Au contraire, beaucoup de Juifs étaient avec lui, car il faisait partie de ces révolutionnaires qui voulaient foutre les Romains dehors d'Israël. Les Romains l'ont su, ils l'ont crucifié. Donc même lui, il est mort parce qu'il voulait aller contre le système. Mais ça, 99% des chrétiens ne le savent pas parce qu'on ne leur raconte pas la vraie vérité. Qui était-il en vérité? Un antisystème, et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Les Romains, pas les Juifs. Et donc, on n'a pas un exemple dans toute l'histoire du monde d'un homme qui va contre le système et qui ne se fait pas exécuter. Alors, comment le Mashiach va réussir? Comment le Messie va réussir? Eh bien, la différence est, et c'est ce que nous commençons à voir aujourd'hui, mes amis, c'est que le Mashiach va comprendre que s'il n'a pas avec lui une armée de millions et de millions d'hommes et de femmes de tous les pays qui font la révolution dans leur propre pays, il ne pourra pas réussir. Je ne dis pas que j'explique tout, parce que malgré tout, si on veut le descendre, on peut le descendre. Mais Martin Luther King, il était tout seul. Ah, il avait quelques centaines avec lui, mais contre la CIA. Gandhi, il avait quelques centaines avec lui, mais il était tout seul. Et tiens, et pourquoi Mao, il a réussi? Parce que Mao, il avait des millions avec lui. Il est arrivé à faire tomber le système qui était avant lui. Je ne dis pas qu'il est meilleur que le système qui était avant lui, mais en tout cas, il avait des millions avec lui. Il a compris que tout seul, il ne réussirait pas. Il faut réveiller les hommes et les femmes. Et ça va être le premier travail du Mashiach, un travail humain, un travail réel. Il va réveiller dans le monde entier des millions d'hommes et de femmes à qui il va faire prendre conscience de la situation dans laquelle le monde se trouve. Et quand ces millions d'hommes et de femmes vont se réveiller, les différents gouvernants et gouvernements qui sont à la solde de toutes ces forces obscures qui veulent nous dominer, les gouvernants et les forces obscures vont comprendre que le problème est très, très, très sérieux. Parce que si c'est juste le Mashiach avec 100 hommes ou 10 hommes avec lui, allez, on le liquide en 5 minutes, comme on a liquidé Martin Luther King. Mais si c'est un homme qui arrivera à réveiller des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que les gens vont refuser de continuer à être comme des moutons. Comme je le dis toujours, quelle est la plus grande dictature de toute l'histoire humaine? La plus douce, mais la plus dangereuse, la démocratie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a compris, la démocratie? Ça ne sert à rien de torturer les hommes comme le font les dictatures. Parce que chaque dictature finit par provoquer une révolte. Donc qu'est-ce qu'ils ont inventé? La démocratie. Le frigidaire est plein, j'ai deux voitures, je pars en vacances. Je vais au restaurant, je vais au cinéma, et comme ça, ils nous foutent la paix. On peut continuer à dominer le monde et personne ne nous dérange. Les premiers qui ont inventé la démocratie, j'ai déjà dit, c'était un empereur romain dont je ne me rappelle pas le nom, celui qui a commencé à construire à Rome les premiers cirques. Et c'était en pleine guerre, quand Rome était en pleine conquête du monde. Il a été convoqué au Sénat, regardez dans Google, vous verrez quel était son nom, et le Sénat l'a engueulé, lui a dit, mais attends, mais t'es malade! Tu dépenses des millions pour construire des cirques, alors qu'on a besoin de cet argent-là pour nos soldats, pour conquérir le monde entier. Et qu'est-ce qu'il a répondu en une phrase, et il a convaincu le Sénat, il a dit, si vous voulez qu'on reste au pouvoir, il faut que le peuple nous fiche la paix. Et pour que le peuple nous fiche la paix, Donnez-lui à manger, donnez-lui des plaisirs, des boîtes de nuit, des cinémas, la télévision, et comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Et le Sénat a compris qu'il avait raison. C'est ça la racine de la démocratie. Finalement, Rome est aussi, d'une certaine manière, la racine du monde occidental. Et c'est le premier à l'avoir compris. Et aujourd'hui, ça marche très fort. Personne n'a envie de se révolter. Pourquoi? Mon frigidaire est plein. Pourquoi tu veux que je me révolte? J'ai de quoi manger. Je suis très bien. Et la religion prend le relais. Le Messie viendra. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je bouffe et je m'amuse. Voilà. Et personne ne fait rien pour changer le monde. Donc, encore une fois, ce qu'expliquent nos maîtres, c'est que le Mashiach ne sera pas un super-homme, ce n'est pas un Superman, c'est un homme comme vous et moi, mais qui aura une prise de conscience inimaginable de la situation dans laquelle se trouvent les peuples dans le monde entier. Et il va réussir, grâce à son charisme, à sa détermination et surtout à son authenticité, il réussira à ramener avec lui des millions d'hommes et de femmes dans tous les pays du monde. Et là, les gouvernements vont commencer à comprendre qu'ils sont en danger. Maintenant, nos maîtres vont plus loin. Contrairement à beaucoup de religions qui expliquent que le Mashiach va venir, il va se mettre sur une colline, il va commencer à parler, tout le monde va dire « waouh, 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 waouh ». Nos maîtres ne disent pas comme ça. Nos maîtres nous disent qu'il va engager un combat réel contre toutes les forces mauvaises de ce monde. Il y aura une véritable guerre que le Mashiach va mener, comme un véritable soldat, contre toutes les puissances financières, contre toutes les puissances politiques, contre tout l'établissement religieux qui est à la solde du politique et à la solde de la finance. Contre, on le sait très bien. On ne sait pas que l'institution la plus riche au monde aujourd'hui, c'est le Vatican. On ne le sait pas. On fait semblant de ne pas savoir. Moi, je le sais, parce que, entre autres, mais tout le monde le sait. J'étais en contact avec, comme vous le savez, avec Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il est rentré au Vatican à l'âge de 17 ans. J'ai fait des vidéos avec lui. Le jour où je l'ai connu, c'est lui qui m'a connu grâce à des cours que je donnais. Et il est venu en Israël de nombreuses fois et on était ensemble. Un homme exceptionnel, un homme à en pleurer de sa grandeur, de ça. Et pourtant, ça ne me dérange pas qu'il était catholique, hein. Parce que moi, ce n'est pas ça que je regarde. Moi, je regarde l'homme. L'homme, un homme fabuleux. Quand je l'ai connu, il avait 85, 86 ans. Il a été menacé de mort plusieurs fois quand les cardinaux ont appris qu'il écoutait mes cours. Une fois, un cardinal est venu le voir, il m'a raconté. Le cardinal lui a dit, vous savez, Don Alberto, à votre âge, si vous ne vous réveillez pas un matin, personne ne se posera la question, pourquoi? Lui m'a dit clairement que l'institution la plus riche au monde était le Vatican. Ils ont des possessions dans le monde entier. Dans le monde entier. Des immeubles, des maisons, des terrains, des scies, et sans compter tout ce qui se passe. Je ne peux pas dire tout ce que je sais parce qu'il m'a dit de ne pas tout raconter, mais je vous garantis, je ne mens pas. Je sais des choses que je ne peux pas dire comme ça officiellement parce que, bon, je tiens un petit peu aussi à ma santé. Mais c'est incroyable ce qu'il m'a raconté, Don Alberto. Un homme qui a passé pratiquement 70 ans au Vatican sans en sortir. Il savait tout sur le Vatican. Un jour, je lui ai demandé, mais Don Alberto, pourquoi vous êtes devenu le chef prieur de la basilique Saint-Pierre? Pourquoi vous n'êtes pas devenu un cardinal? Il m'a répondu, un cardinal? C'est ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais moi, je suis un vrai catholique, moi. Je suis un vrai catholique. Moi, je ne voulais pas devenir cardinal parce que les cardinaux ne sont pas des catholiques. C'est des hommes d'argent, des hommes politiques et c'est tout. Il y a des exceptions peut-être, mais globalement, il m'a dit non, j'ai refusé de devenir un cardinal parce que moi, j'étais un vrai croyant, un vrai catholique. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est une chose folle. Et il a été menacé de mort. Je vous dis franchement, il me l'a raconté lui-même. Il a été menacé de mort. Quand ils ont commencé à comprendre qu'il avait des liens avec Israël, avec des Juifs, il a été menacé de mort. Mais il n'a pas cédé, il a continué, finalement, ils ne l'ont pas tué. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que si on est seul ou avec quelques centaines ou quelques milliers, on ne réussira pas à changer le monde. Il faut d'abord des millions avec soi. Après, il faut partir en guerre contre toute la mafia de ce monde, la mafia religieuse, la mafia politique, la mafia sociale. Toutes les mafiotes de ce monde. Et Maïmonide dit clairement dans son livre que la deuxième étape du Mashiach, première étape, c'est de rassembler un maximum d'hommes et de femmes autour de lui. Deuxième étape, c'est de partir en guerre contre toute la corruption de ce monde. Et ça sera une vraie guerre physique, ce n'est pas une guerre avec la bouche, une vraie guerre. Et la troisième étape, reconstruire le monde. Reconstruire le monde, reconstruire, ça veut dire en nettoyant le monde, y compris en nettoyant toutes les croyances, de tous les mensonges qui habitent toutes les croyances, y compris le judaïsme, qui est bourré de mensonges lui aussi. Encore une fois, le judaïsme n'a rien à voir avec la Torah. Le judaïsme, c'est la religion des juifs, comme le christianisme, c'est la religion des chrétiens, mais toutes les religions ont en commun qu'elles nous mentent. Elles ne nous disent pas la vérité. Et la vraie vérité de Dieu, c'est 10, 15 personnes dans chaque génération qui la connaissent. Et tout le reste sont manipulés. Et donc, il va nettoyer toutes les religions de tous les mensonges qui endorment les gens. Le Messie viendra, Dieu va se dévoiler, le Sauveur, le ci, le ça. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Rien, j'attends. Pour nous empêcher d'agir. Et donc, il va nettoyer toutes les croyances, de tous les mensonges qui entourent les croyances, et il va reconstruire l'unité de ce monde. L'unité de ce monde, c'est quoi? C'est que, je vais aller même peut-être encore beaucoup plus loin. Je ne dis pas que le christianisme va disparaître. Je ne dis pas que l'islam va disparaître. Je ne dis même pas que le bouddhisme va disparaître. Mais toutes les croyances vont être affinées, vont être nettoyées et ne restera dans chaque croyance que la dimension authentique, vraie. Et dans chaque religion, il y a de l'authenticité. Dans chaque religion, il y a quelque chose de vrai, mais qui est malheureusement entouré de beaucoup, beaucoup de choses qui sont négatives. Dans l'islam aussi, il y a des gens extraordinaires. Moi-même en Israël, j'en connais. Ça fait 30 ans que je suis en Israël, j'en connais des musulmans. Il y a des gens extraordinaires dans l'islam. Mais malheureusement, l'islam est manipulé par une bande de terroristes qui se servent de l'islam pour s'en mettre plein les poches. Quel était l'homme le plus riche de la terre en son temps? Mais tout son argent, c'était du noir qui n'était bien sûr pas officiel. Arafat. Quelle est la fille la plus riche du monde aujourd'hui? La fille d'Arafat. Tout l'argent qu'il recevait des nations, 90% il mettait dans une banque en Suisse et 10% il donnait 9% sur les 10 pour les armes du terrorisme et 1% pour son peuple. Voilà. Bien sûr, regardez, vérifiez, vous verrez. Vous verrez. Regardez où la femme de Arafat vit aujourd'hui, dans le plus bel appartement du 16e qu'il y a à Paris. C'est un appartement qui vaut peut-être, je ne sais pas moi, 50 millions d'euros, j'en sais rien. D'où est-ce cet argent-là? Donc, l'islam est manipulé par des terroristes qui se servent de Allah pour pouvoir uniquement se faire du pognon. C'est tout. Aussi détruire Israël, mais surtout se faire du pognon. C'est vrai partout. Donc, encore une fois, recréer l'unité du monde, ce n'est pas, comme je le dis toujours, la différence fondamentale entre l'unité et l'uniformité. C'est-à-dire, on ne va pas tous être pareils. Quoi, tous les peuples vont croire en Dieu de la même manière, mais même à l'intérieur des Juifs, ça n'existera jamais. Deux Juifs, trois discussions, 10 discussions. Et évidemment que les différences vont rester. Évidemment que les approches vont être différentes, mais elles seront toutes vraies. Le christianisme va être purifié de tout ce qui est faux. Le judaïsme va être purifié de tout ce qui est faux. L'islam va être purifié de tout ce qui est faux. Ne parlons pas de toutes les idéologies politiques. Alors là, c'est 99% de faux et peut-être 1% de vrai. Dans les religions, je ne dirais pas que c'est 99% de faux. Mais il y a beaucoup de faux aussi. Et donc le Mashiach va tout nettoyer. Et quand le monde va être nettoyé de tous ces mensonges, parce que qu'est-ce qui crée les discordes entre nous? C'est le mensonge. Le mensonge, les Juifs ont tué Jésus. Je suis désolé de vous dire ça, mais comment qu'on peut encore croire ça en 2021? Alors que le monde entier sait que la crucifixion n'est pas un supplice juif. Et les Juifs étaient dominés par les Romains. Les Juifs étaient des esclaves des Romains à cette époque-là où ils ont tué Jésus. Comment voulez-vous que les Juifs tuent Jésus? En plus sur une croix. La croix, c'est un symbole juif. Donc, tout le monde, avec un minimum de bon sens, sait que c'est les Romains qui ont... Et pourquoi les Romains? C'est qui sont les premiers qui ont dit que c'est les Romains qui ont tué Jésus? Eh bien, quand Constantin est devenu chrétien, Il a fait croire au monde entier que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Alors que j'oserais presque dire que Jésus était plus un combattant juif authentique, et c'est pour ça que les Romains l'ont tué. Parce qu'ils écrasaient tous ceux qui se révoltaient contre Rome. Et Jésus est mort comme un juif révolutionnaire tué par les Romains. Et après, les Romains ont tout transformé, ils ont dit non, c'est les Juifs qui l'ont tué. Et tout le monde a gobé, tout le monde a cru. Mais il est temps de se réveiller. Donc ça, c'est un des mensonges dans la religion chrétienne qui est à la source de tout l'antisémitisme, on pourrait dire, chrétien pendant 2000 ans, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Ben, c'est normal, vous avez tué notre Dieu, c'est normal qu'on vous déteste, évidemment. Mais le jour où les chrétiens vont prendre conscience de ce mensonge inimaginable, eh ben, il n'y aura plus de raison de haïr les Juifs. Et donc, c'est un exemple du rapprochement entre les peuples. Maintenant, il y a des millions d'autres mensonges dans toutes les religions et dans tous les idéaux politiques. Et au fur et à mesure que ça va être nettoyé, tout va se reconstruire. On aura l'unité du monde. D'après notre tradition, j'ai terminé, il y a 70 peuples, Israël 71 et Dieu 72. Et quelle est la valeur numérique en hébreu de 72, c'est le mot chesed, et comme dit le verset, olam chesed yibane, je traduis, Dieu dit, je construirai un monde de bonté. Et le mot bonté en hébreu qui se dit chesed a pour valeur numérique 72, 70 peuples, Israël et Dieu, 72, ça forme un monde de bonté. Un monde où un juif rencontrera un chrétien. On n'est pas les mêmes, mais on se respecte, on s'aime. Un musulman rencontrera un chrétien, un juif rencontrera un musulman, on rencontrera un bouddhiste, peu importe. Un homme de droite rencontrera un homme de gauche. Mais comme toutes les idéologies mensongères seront nettoyées, il ne restera que l'authenticité, et l'authenticité permettra la réunification du monde. Et c'est ça le dernier travail du Mashiach, qui est encore une fois un monde d'unité, un monde où finalement tous ceux qui sont différents les uns des autres se respecteront. Comme je dis souvent, parce qu'on regardera l'homme avant de regarder sa pensée. Le grand problème de toute l'histoire humaine, c'est qu'on regarde la pensée avant de regarder l'homme. Et comme on le sait, il y a des hommes extraordinaires partout. Et même si un homme se prosterne devant Bouddha, peut-être que dans la vie de tous les jours, c'est un homme fabuleux, peut-être encore mille fois mieux qu'un rabbin ou qu'un curé. T'en sais rien, tu le connais dans sa vie. Alors c'est vrai, à tes yeux, il fait une bêtise. Il se prosterne devant une statue. Très bien, c'est idiot, c'est insensé. Mais sur le plan humain, ça peut être un homme extraordinaire. Mais qu'est-ce que font tous les hommes aujourd'hui? Je regarde ton idée. Tu es un idolâtre, crève. Mais peut-être que dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, avec ses amis, il est meilleur que toi. Alors pourquoi tu lui dis crève? Toi, tu crois peut-être dans le Dieu un si tu es juif, mais peut-être qu'avec ta femme, ça ne marche pas, peut-être qu'avec tes enfants, ça ne marche pas, peut-être qu'avec tes voisins, ça ne marche pas. Donc qui est mieux, le bouddhiste ou toi? Le bouddhiste est mieux que toi, parce que sur le plan humain, il est mieux que toi. Donc il faut regarder l'humain, il ne faut pas regarder la pensée. Attention, je ne dis pas qu'il faut adhérer à des pensées qui sont fausses, mais ne pas juger l'homme en fonction de ses pensées, juger l'homme en fonction de son humanité. Et ça sera le grand, grand travail du Mashiach, de révéler qu'il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui sont des gens extraordinaires, même si tu n'es pas d'accord avec leurs pensées. Mais ce sont des gens extraordinaires. Et c'est comme ça que va se recréer l'unité. Donc, il y a une question à laquelle je n'ai pas encore vraiment répondu, c'est comment le Mashiach va arriver jusqu'au bout sans être assassiné. J'ai commencé à répondre en disant que le fait qu'il y aura des millions d'hommes et de femmes avec lui, ça va peut-être le protéger. Et les gouvernants vont peut-être commencer à se poser des questions, que le monde est en train de nous échapper. Et c'est peut-être pour ça qu'il va pouvoir s'en sortir. Mais voilà, j'ai exposé donc, encore une fois, ma vision des choses par rapport à la délivrance finale. Encore une fois, une vision très objective, très terre à terre, très concrète, Et ce que je vous demande plus que tout, c'est de vous nettoyer de tous les mensonges des religions qui vous présentent le Messie comme un surhomme qui, avec deux coups de baguette magique, va résoudre tous les problèmes de l'humanité. C'est le plus grand mensonge jamais émis sur Terre. Mais vraiment, c'est pas du tout ça. Ça va être un homme d'action, un homme véritable qui va mettre sa vie en danger, qui va aller de pays en pays pour rassembler un maximum d'hommes et de femmes avec lui, jusqu'à ce que des millions le suivent, et à ce moment-là, il commencera son véritable travail. Voilà, mes amis, on peut maintenant passer à quelques questions avec un très, très grand plaisir. Je voudrais vous écouter. J'espère qu'il y a des questions. Alors, qui lève la main? Steve, il faut ouvrir le micro de Steve. Steve, oui.
Voilà. Qu'en est-il des miracles? Parce que je suppose que le Machiav, il bénéficiera de miracles pour être protégé, vu qu'on voudra l'assassiner, le tuer. Il bénéficiera de certainement de miracles, non?
Le problème, c'est que vous parlez avec quelqu'un qui n'est ni un rabbin ni un rave. Les miracles, je m'en fous. Je n'y crois pas. D'accord? C'est une invention des religions. C'est de la bêtise totale. Mais je vais quand même préciser. Les miracles tels que les religions en parlent, c'est de la foutaise totale. Vous voulez que je vous donne un exemple? L'ouverture de la mer. Tout le monde croit à un miracle inimaginable. Les Juifs sont devant la mer s'ouvre. Regardez les versets. Les versets vous prouvent que ce n'était pas un miracle dans le sens surnaturel. Toute la nuit, un vent très très fort a soufflé sur la mer, disent la Torah. Et tous les commentaires posent la question, mais si c'est Dieu qui ouvre la mer, qu'est-ce qu'il a besoin que pendant 12 heures, un vent très très fort souffle sur la mer? Et ce vent-là, et la vitrine cachée de Dieu pour faire croire que finalement l'eau a été repoussée grâce à ce vent. Et la preuve, si ça avait été un miracle absolu, comment se fait-il que l'armée égyptienne rentre dans l'eau? Mais elle sait très bien que si c'est Dieu qui ouvre la mer, il peut la refermer sur eux. Pourquoi ils sont rentrés? Tous nos maîtres nous disent, parce qu'ils ont cru que c'était un phénomène naturel. Le vent a soufflé sur l'eau. Et le vent, avec sa puissance, est arrivé à repousser l'eau. Et donc, ils se sont dit, si la nature ne fait pas de différence entre les Juifs et les Égyptiens, donc si eux peuvent rentrer, nous, on peut rentrer aussi. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a caché son miracle derrière un phénomène naturel. Et ça, c'est un exemple fondamental, Steve. Le miracle tel qu'en parlent les religions n'existe pas. C'est une pure invention des soi-disant représentants de Dieu qui se prosternent devant leur nombril. Tous les miracles authentiques sont cachés derrière une apparence naturelle parce que Dieu ne veut pas dans ce monde se montrer comme un Superman. Ça n'existe pas. Dieu, on pourrait dire d'une certaine manière, se met à la hauteur de ce monde. Et comme ce monde est un monde, entre parenthèses, dirigé par la nature, même lorsque Dieu fait un miracle, il le cache à l'intérieur de phénomènes naturels. Maintenant, sachez que le rabbi de Lubavitch, l'ancien, a expliqué clairement dans quantité de textes et d'enseignements qui sont écrits, et j'ai ces livres ici, il a expliqué que la délivrance finale se fera uniquement avec des miracles complètement cachés dans les lois de la nature. Ça veut dire que, je vais donner un exemple simple, vous avez vu le film Schindler. Comment il s'appelle? Schindler, l'Allemand Schindler qui a sauvé des milliers de Juifs. Il y a un moment où on voit un Juif accroupi, il y a un officier allemand qui vient avec un revolver pour lui tirer dessus, dans la tête. Et le revolver ne marche pas. On lui en donne un autre et le deuxième ne marche pas. Et finalement, il est tellement énervé, il donne un coup de pied à ce Juif et dit « Retourne dans ta baraque, dans un camp de concentration. » Mais évidemment que c'est un miracle. Deux revolvers, il n'y a pas une balle qui sort. Et on le voit dans le film Schindler. Évidemment que c'est un miracle, mais un miracle complètement caché dans la nature. Bon, les pistolets n'étaient pas en bon état. Vous comprenez? Ça, c'est un vrai miracle. Mais un miracle tel que les religions nous en parlent, d'accord? Ça, c'est complètement faux. Ça n'a jamais existé. C'est une invention purement humaine. Purement humaine. Et je donne un exemple. Pendant la guerre de 91, j'ai déjà donné 1000 fois cet exemple-là. Des centaines de missiles irakiens sont tombés sur Israël. Des immeubles entiers sont tombés, avec tous les habitants dedans. Il n'y a pas eu un mort. Il n'y a pas eu un mort. Il y a eu quelques blessés, mais pas un mort. Le dernier missile envoyé par les Irakiens est sur une base américaine en Arabie Saoudite. Vérifiez tous mes propos. Plus de 200 morts dans la base américaine. Comment c'est possible? Des immeubles entiers tombent dans toutes les villes d'Israël, pas un mort. C'est-à-dire avec les grues et les tracteurs, on récupérait les gens, mais ils sortaient vivants. Un missile sur une base militaire en Amérique, américaine en Arabie Saoudite, plus de 200 morts. En 91. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais le problème, ça n'a pas été un miracle que tout d'un coup on a vu un ange qui a attrapé le missile dans le ciel et puis qui l'a mis dans sa poche. Ça, c'est les miracles des religions qui sont là pour nous endormir avec toutes leurs bêtises. Bien sûr que c'est un miracle que 50 immeubles s'écroulent et qu'il n'y a pas un seul mort en Israël. Bien sûr, c'est un miracle, mais un miracle caché dans la nature. Alors, le Mashiach bénéficiera de ce genre de miracle, mais pas des miracles visibles dans le sens, encore une fois, dans le sens religieux du terme. Des miracles cachés dans la nature, parce que Dieu ne se manifeste pas comme un Superman. Comprenez? Voilà. Ça veut dire qu'il est peut-être possible qu'une fois, ils voudront liquider le Mashiach. D'accord? Mais le drone ne fonctionnera pas. Quand il passera à côté du Mashiach, le drone qui est grand comme une mouche, il voudra envoyer son gaz, ça ne sortira pas. C'est possible. Ça, je peux y croire. Le gaz ne sortira pas. Mais alors les ingénieurs diront, ben, ce drone était défaillant. Mais ce que nous, on sait, c'est que c'est Hachem qui a décidé que le gaz ne sortirait pas. Mais c'est un miracle caché dans la nature. Ça, c'est les vrais miracles. Les miracles cachés dans la nature. Oui. Donnons un exemple simple. Excusez-moi, mais quel est le plus grand miracle qu'un homme peut vivre dans sa propre vie? Eh bien, lorsqu'il rencontre son âme sœur, ça veut dire son épouse. Et d'après notre tradition, et c'est la vérité vraie, la véritable épouse, c'est la demi-partie de son âme. Puisque l'âme, avant de descendre dans ce monde, elle a un côté féminin, un côté masculin. Après, l'âme est séparée. Le féminin tombe dans une femme, le masculin tombe dans un homme. Très bien. Mais comment ils vont se retrouver? Comment ils vont se retrouver? Eh bien, c'est ce que nos maîtres nous disent. C'est le plus grand miracle dont bénéficie un homme s'il a le mérite d'épouser son âme sœur. Mais comment? Il y a des millions de femmes sur Terre, il y a des millions d'hommes sur Eve. Comment je suis tombé? On n'est pas né dans la même ville, on n'a pas le même âge. Comment on s'est retrouvé? Mais ça, c'est un des plus grands miracles d'Hachem caché dans la nature. C'est un miracle, un vrai miracle, de retrouver son âme sœur. Mais d'un autre côté, je suis descendu dans le même hôtel qu'elle, on s'est retrouvé une fois à un bar, comment vous vous appelez? Voilà, c'est ce que nous, on va expliquer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Hachem m'a fait rentrer dans cet hôtel parce qu'elle y était aussi, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. Donc, le miracle est complètement caché. Ça, c'est un vrai miracle. Ok, Steve? Très bien. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui, Madame Rocker. Ouvrez votre micro. François, ouvrez le micro à Madame Rocker.
Voilà. Bon, Rav, en attendant que le Messie vienne faire tout ça, on fait quoi, nous? Je sors dans la rue avec mes gamelles pour taper réveillez-vous, réveillez-vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait?
Vous ne pouvez pas savoir comme j'apprécie vos remarques. Vous êtes une vraie guerrière.
Parce que vous parlez tout le temps, je suis désolée, vous parlez tout le temps au futur. Quand le Messie viendra, quand ceci viendra, il mettra une armée. Mais en attendant, nous, on fait quoi? Il n'est pas là.
Eh bien, en attendant, Madame Rocker, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a commencé il y a 4 ou 5 ans, je ne me rappelle pas, d'accord, avec les Bnei Adam. On était combien? On était quoi? 5, 6, 10? Aujourd'hui, rien qu'en ce qui me concerne, moi, je suis en contact avec combien de Bnei Adam dans le monde? Des milliers. Et ça a commencé avec vous deux. Ça veut dire, oui, on a fait quelque chose. On a fait quelque chose en ce sens que on a commencé. Vous savez, quand j'ai lancé mon site il y a une douzaine d'années, je pouvais imaginer, bien que je savais qu'il allait aller partout, mais je pouvais imaginer que des, entre parenthèses, je n'aime pas le nom, mais que des non-juifs allaient m'écouter. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez un rabbin? D'abord, bien que je n'aime pas le mot rabbin, c'est une insulte pour moi, mais peu importe. Mais en tous les cas, comment je pouvais imaginer? Et puis tout d'un coup, je commence à me rendre compte qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, avec les années. Aujourd'hui, vous savez que sur mon site, aujourd'hui, j'ai entre 300 000 et 400 000 vues par mois. La majorité, c'est des bnei adam. Ben, c'est normal, vous êtes 7 milliards, nous on est quoi? On est 2, 3, 4, 5 millions. Donc, la majorité des gens qui écoutent aujourd'hui les rabbanim, les bons rabbanim, ce sont des bnei adam. Donc, je réponds à votre question. Le travail de diffusion, le travail que vous faites sur le site Bnei Adam avec vos cours, etc., vous croyez que ça ne fait, c'est pas un travail énorme? Évidemment, on n'est pas le Machiav, donc on ne peut pas maintenant sortir avec une épée et partir en guerre contre toute la mafia de ce monde. Mais ne négligeons pas le travail que nous faisons. Comme je le dis, nous sommes les graines de la délivrance. Vous êtes les graines de la délivrance. Nous sommes les graines de la délivrance. Puisque nous commençons à avoir un contact entre juifs et non-juifs, nous commençons à nous respecter, à nous aimer, à comprendre que finalement le monde est en train de se réveiller. Mais c'est déjà énorme. Jusqu'il y a encore 12 ans, il y a eu un rave avant moi, un an avant moi qui a commencé, c'est le Rav Ron Chaya. Mais lui, avec tout le respect que je lui ai, parce que c'est un homme extraordinaire, il n'a pas beaucoup de non-juifs qui le suivent, parce que bon, lui, il a un discours, on pourrait dire, très, très juif. Mais moi, j'ai été le deuxième à commencer un site, un an ou deux après lui. Donc, il y a 12 ans. Jusqu'il y a 12 ans, il y avait un juif, un non-juif quelque part dans le monde qui se serait imaginé écouter un cours de Torah d'un rabbin. Il dit, mais attends, mais la Torah, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un youpin, moi. D'accord ? Et aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, si je rajoute toutes les langues, car je le sais, en anglais, en espagnol, en russe, en français, des millions de non-juifs qui écoutent des cours de Torah aujourd'hui. Et tout a commencé il y a une dizaine d'années. Donc, il y a déjà un travail énorme qui est entamé. Maintenant, par rapport à vous, vous me demandez qu'est-ce que vous faites. Mais on peut toujours faire plus. Je vais vous donner un exemple, je m'excuse, c'est un petit peu orgueilleux, mais j'en suis presque aujourd'hui à 3 Zooms par jour. Je suis épuisé, mais je n'arrive pas à refuser. Je suis sollicité de partout, par des non-juifs, pas par des juifs. De partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des cours et ça a réveillé, ça réveille dans le monde entier. Donc vous aussi, vous pouvez faire ça. Chacun d'entre vous peut faire ça. En parlant avec des gens autour de soi, en créant une chaîne YouTube, ou comme vous le faites sur le site Bnei Adam, vos cours sont merveilleux, sont extraordinaires. Donc, il y a du travail à faire. Et ne négligeons pas ce travail, car pour l'instant, nous sommes encore dans le début du début. Ce qui est, d'ailleurs, je vais vous donner un enseignement clair, bon, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, mais le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, il y a 300 ans, un jour en pleine prière, bon, je ne rentre pas dans les détails d'explication, son âme est montée dans les mondes supérieurs. Elle est montée, dit la tradition, jusqu'à l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach. Et c'est le Baal Shem Tov lui-même qui a raconté cette histoire-là, donc elle est authentique. Comment dans les détails, j'en sais rien, mais en tout cas. Et il a demandé au Mashiach, quand tu viendras? On en a marre, mince! Depuis le temps qu'on t'attend. Et il a répondu, quand les enseignements de la Torah se répandront dans le monde entier. C'est à pleurer. C'est un enseignement que nous connaissons, nous juifs, depuis 300 ans. Et c'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, les enseignements de Torah se diffusent dans le monde entier. J'aurais pu imaginer, moi, qu'au Congo, qu'au Gabon, qu'à Madagascar, il y aurait tellement de gens qui se réveillent. D'où je pouvais imaginer? Mais j'étais dans un nuage total. Comment je pouvais imaginer ça? Comment je pouvais imaginer? À Madagascar? Mais quel est le lien entre la Torah et Madagascar? Quel est le lien? Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens à Madagascar qui écoutent les cours de Torah. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est exactement cet enseignement d'il y a 300 ans que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov. Lorsque les enseignements de la Torah se répandront dans le monde entier, je viendrai. Ça veut dire que la première étape, c'est ce que nous faisons, c'est ce que vous faites, c'est ce que chacun d'entre nous peut faire. Commencer à je ne dis pas diffuser la Torah, je n'ai pas dit ça, ça c'est à moi de le faire, mais à diffuser des enseignements, des paroles qui vont toucher les gens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que font les gens? Les gens sont vides aujourd'hui. Et je pense que la plupart d'entre vous sont tout à fait capables de ce que je vous connais, de pouvoir diffuser chacun à son niveau des notions qui vont réveiller les autres. Vous avez même le droit de prendre une partie d'un de mes cours et de le diffuser de votre manière. Aujourd'hui, n'importe qui a le droit d'ouvrir une chaîne YouTube. Eh bien, vous ouvrez une chaîne YouTube et une fois par semaine, vous faites un petit enseignement de 10 minutes, un quart d'heure. Mais vous serez surpris de voir qu'avec les mois, vous aurez des centaines de gens qui vous suivent et vous comprendrez que vous faites un travail de folie. Parce que même si c'est seulement 200 personnes, c'est 200 personnes qui n'auraient jamais connu la vérité si vous ne vous étiez pas investi. Donc, il y a énormément de travail à faire, Madame Anker. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le travail du Mashiach. C'est lui qui fera en sorte que nous nous joignions à lui, je l'espère, ça sera encore dans notre génération. Mais même avant qu'il vienne, et même si nous ne le verrons pas, on a malgré tout un travail à faire. Commencer à diffuser la vérité auprès des autres. Et aujourd'hui, on a cet instrument Internet qui est un instrument fabuleux qui peut nous permettre, bon, vous le faites déjà bien sûr, mais beaucoup d'autres peuvent le faire et il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas se négliger, il ne faut pas penser « mais qui je suis ?» Non, c'est faux, c'est faux. Parce que chacun d'entre nous est suffisamment… La preuve, c'est que vous êtes des gens authentiques, sinon on ne serait pas ensemble ce soir. Donc, puisque vous êtes des gens authentiques, qui recherchaient la vérité, vous avez les capacités, vous aussi, à votre niveau, de diffuser des paroles de vérité. Pas forcément pendant une heure, pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes. Et je vous garantis qu'avec les mois, vous allez voir que vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent. Bien sûr. Voilà. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ma réponse, elle est suffisante et totale. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je me répète, Madame Rocker, on est dans l'étape de la diffusion, c'est-à-dire de la reconnexion entre Israël et les nations. Pendant des millénaires, les nations détestaient Israël et Israël détestait les nations à cause de ce que les nations faisaient à Israël. Et aujourd'hui, on est à l'ère de la reconstruction de cette compréhension et de ce respect entre Israël et les nations. Et on vit quelque chose d'inimaginable. Qui aurait cru il y a encore 50 ans qu'il y aurait un tel respect entre juifs et non-juifs comme on le vit nous aujourd'hui? Qui aurait cru une chose pareille il y a seulement 50 ans? Et aujourd'hui, on le vit. C'est donc bien la preuve qu'on est dans l'étape aujourd'hui de la reconnexion et grâce à la diffusion ou d'autres moyens. Mais aujourd'hui, on est encore une fois dans l'étape de la reconnexion. Voilà. Vachili, vous voulez poser une question? Ah non, pardon, excusez-moi, Céline. Ouvrez le micro.
Alors, voilà. Bonsoir, Rav. Moi, j'aurais en fait deux questions. La première, c'est, en fait, avant le ministère de Jésus, les évangiles racontent qu'il y a eu Jean le Baptiste, qui est un prophète, et qui a dit dans tout Israël, convertissez-vous, faites teshuva, en fait, si on traduit en langage.
Alors, attention, la traduction grecque et romaine, c'est convertissez-vous. Dans le texte, n'oublions pas qu'ils parlaient tous l'hébreu et
ils parlaient à des juifs.
Et l'évangile, le Nouveau Testament, a été écrit en hébreu, non en grec et non en romain. On est bien d'accord. Après les traductions, excusez-moi de vous le dire, mais je peux vous apporter 1000 preuves, les traductions ont falsifié le texte hébreu afin justement de transformer beaucoup d'enseignements. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, vous lisez dans la Bible, dans les 10 commandements, tu ne tueras point. C'est un grand mensonge, il n'est marqué nulle part, tu ne tueras point. Il est marqué, tu n'assassineras point. Et il y a une grande différence entre tuer et assassiner. Un soldat tue, il n'assassine pas. Un soldat a le droit de tuer. C'est un devoir de tuer pour protéger son pays. Mais par contre, il n'a pas le droit d'assassiner. Si après avoir tué des soldats, il rentre dans un village et il tire à la mitraillette sur les civils, c'est un assassinat. Ça, c'est interdit par la Torah. Mais tuer son ennemi, c'est un devoir de le faire. Donc, vous voyez un exemple d'une traduction complètement falsifiée. Dans toutes les Bibles du monde entier, il est marqué « tu ne tueras point », alors qu'il est marqué « tu n'assassineras point ». Regardez en hébreu, « lotirtsar » signifie « assassiner » et non « tuer ». Et je pourrais vous en donner des exemples encore. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est marqué nulle part, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est marqué en hébreu, « ve'afta le re'acha kamocha ». Dans le mot re'acha que les nations ont traduit par prochain, il y a le mot ra qui veut dire tu aimeras même celui qui te fait du mal, tu l'aimeras comme toi-même. Ça veut dire la différence est énorme parce que ce verset nous apprend à nous unir même à des gens qui sont différents de nous. Alors que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire tu aimes ton nombril, celui qui est proche de moi, celui qui est comme moi. Vous voyez, mais vous voyez la falsification. Donc, sachez, avec tout le respect que je vous dois, que le Nouveau Testament a été falsifié et énormément de mots ont été traduits faussement pour avoir une nouvelle version de choses qui n'avaient jamais été dites.
Pardon, je reprends juste. Donc, c'est ce prophète Yohanan qui a dit en gros au peuple, faites tes chouva. On dit souvent, on a les dirigeants qu'on mérite.
Oui.
Est-ce que ça veut dire, en fait, que si vraiment les gens faisaient des chouva, de fait, finalement, tous les pouvoirs tomberaient?
Je suis absolument d'accord avec vous. D'abord, il faut savoir que le pouvoir des dirigeants juifs à l'époque de Jésus était en grande partie corrompu. Ils étaient à la solde de Rome. Comment ils étaient à la solde de Rome? Ben, tout simplement, c'est un exemple, le roi Hérode. Le roi Hérode était un grand criminel. Il a fait assassiner pratiquement tous les maîtres juifs de sa génération. Il les a fait assassiner. Et donc, pourquoi? Parce qu'il recevait de l'argent des Romains pour être à la solde de Rome. Comme en Afrique aujourd'hui, dans la plupart des pays, tous les dirigeants africains sont à la solde du pouvoir occidental. Ils reçoivent un argent fou pour, d'une certaine manière, tenir leur peuple en esclave. Pas comme il y a 100 ans ou 200 ans, mais disons pour que les peuples travaillent pour le profit des Occidentaux. Pourquoi? Ils reçoivent de l'argent pour ça, tout simplement. Ce n'est pas les peuples qui sont responsables, c'est les dirigeants. Les dirigeants ont toujours été des crapules jusqu'à aujourd'hui dans tous les pays du monde, sans exception. Donc, quand les Romains se sont installés en Israël, ils ont cherché des bandits à l'intérieur du peuple juif, et ils les ont nommés à la tête du peuple juif. Ils leur donnaient de l'argent et vous faites notre volonté. Donc, quand, pas seulement Jésus, mais énormément de maîtres comme Rabbi Akiva ou d'autres ont été après attrapés par les Romains et ont été torturés à mort. Des centaines de maîtres ont été torturés à mort comme Jésus parce qu'ils se révoltaient contre le pouvoir romain et contre la corruption des dirigeants juifs qui étaient à la solde de Rome. Les dirigeants ont toujours été des crapules. Il n'y a pas d'exception. On compte sur les 5 doigts de la main dans toute l'histoire humaine des dirigeants qui n'étaient pas des crapules. Ce sont tous des crapules. Le fric, le pouvoir, etc. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuva? Comment moi je le comprends? Ça veut dire pas seulement teshuva religieuse. Ça veut dire comme ce que Rabbi Akiva il a fait. Il a soutenu la révolte de Bar Corba contre l'Empire romain. Malheureusement, ça a été un échec total qui a causé la mort de millions d'hommes et de femmes. Mais c'est ça, faire teshuva. C'est pas seulement, Céline, je pense que je suis sûr que vous me comprenez. Faire teshuva, ça veut dire revenir vers Dieu. C'est pas seulement revenir vers Dieu sur le plan religieux. C'est revenir aussi vers une action concrète. Et Rabbi Akiva a mis sa vie en danger pour soutenir la révolte de Bar Corba contre les Romains, malheureusement qui a échoué par une catastrophe, un génocide absolument incroyable parce que Bar Corba n'a pas réussi. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'était une teshuva dans le sens réel du terme. Ce que nous savons, nous, juifs, sur Jésus, C'est exactement la même chose. C'était quelqu'un qui se battait contre le pouvoir romain. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ils éliminaient tous ceux qui allaient contre le système romain. Et imaginons les Romains il y a 2000 ans, quelle cruauté ils avaient. Vous comprenez ? Et donc quand, s'il est marqué par ce prophète dont vous dites « faut faire teshuva », pour moi, la compréhension est claire. Révoltez-vous, arrêtez d'être des moutons à la solde des dirigeants juifs ou romains qui ne font que vous écraser. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on a un gouvernement en Israël qui parle de tout réouvrir le Shabbat, les autobus, les trains, les magasins, etc. C'est la catastrophe. D'accord ? Mais on sait que la moitié, les deux tiers de ces dirigeants juifs, excusez-moi de le dire, pour moi, ce n'est pas des juifs. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une âme juive. Ils n'ont pas une âme juive. On sait que tous les peuples sont infiltrés, tous les peuples sont infiltrés par des forces étrangères, etc. Et le peuple juif, plus que n'importe quel autre peuple, puisque tout le monde veut le détruire. Donc, on est infiltré par des gens dont toute l'intention, c'est de nous détruire de l'intérieur. Et là, on a un gouvernement qui a dit officiellement que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de mariage civil en Israël. C'était que des mariages religieux. Donc, si maintenant, ils veulent la destruction du Shabbat, les mariages civils, les mariages homo, les mariages lesbiennes, tout va être officialisé s'ils y arrivent. Mais ils veulent tout officialiser aujourd'hui. Ils veulent faire de nous un pays comme les autres. Vous comprenez ? Et c'est surtout l'extrême gauche qui est malheureusement dans le gouvernement aujourd'hui qui est à la tête de toute cette corruption-là. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Les dirigeants sont les hommes les plus dangereux depuis le début de l'histoire. Et la Teshuvah, c'est une grande révolution de la part des peuples de faire tomber toute cette corruption qui est à notre tête. Bien sûr, en revenant vers Hachem lui-même, parce que si tu ne reviens pas vers Hachem, tu vas remplacer un homme corrompu par un autre homme corrompu, évidemment. Quelle a été la grande erreur de la Révolution française ? Bien que dans le fond, elle avait quelque chose de très, très juste. C'est qu'ils ont séparé l'Église de l'État. Donc, ça veut dire ils ont dit à Dieu, tu restes en haut, tu nous fous la paix en bas. D'accord ? Donc, finalement, ils ont fait tomber les rois. Mais ceux qui ont pris la tête des rois, enfin, la tête dans les deux sens, ceux qui ont pris la tête du gouvernement n'ont pas été moins corrompus que les rois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont éliminé Dieu. Puisque la Révolution française est à l'origine de la séparation entre l'Église et l'État. Dans le sens profond, ça veut dire « toi, Dieu, reste dans le ciel et fous-nous la paix ». C'est ce que ça veut dire. Donc, séparation entre l'Église et l'État. Donc, les nouveaux dirigeants étaient aussi corrompus que les rois. C'est-à-dire que si un laïc fait une révolution, c'est la catastrophe. Si un croyant sincère, authentique, fait une révolution, ça peut amener le salut du monde. Et ce salut-là, il sera apporté par le Mashiach, qui va faire une vraie révolution. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Oui, Suzanne, ouvrez votre micro. Voilà. Ah, on ne vous entend pas, Suzanne. Pourtant, le micro est ouvert. Peut-être qu'il est... Non, on ne vous entend pas, Suzanne. Qu'est-ce qu'on peut faire, François ? Son micro est ouvert pourtant. Hein ? Peut-être que le son de votre micro est faible. Peut-être que votre ordinateur et le son est baissé trop bas, peut-être. Montez le son de votre ordinateur. Vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait vous aider dans l'appartement ?
C'est un problème de... informatique.
Oui, mais à mon avis, peut-être que son son doit être au plus bas dans son ordinateur.
Ça, c'est deux choses différentes, le son d'ordinateur et le micro, c'est deux choses différentes.
Ah, deux choses différentes. Bon, je suis désolé, Suzanne, mais on ne vous entend pas.
Il y a Jean-Luc et Marie-Claire qui voulaient poser une question, je crois.
Qui voulait poser une question ?
Jean-Luc.
Oui. Juste un instant, Jean-Luc. Suzanne, vous pouvez écrire votre question, écrivez-la. On la verra apparaître sur le texte et dans ce cas-là, j'y répondrai. Jean-Luc.
Oui, Raph. En fait, On parle de gens qui se sont levés déjà jusqu'à présent dans le monde pour essayer de changer les choses, hein, même dans l'actualité. Donc, on a eu un même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas échoués dans leur truc, c'est un peu comme Trump ou des gens dans le domaine médical qui se lèvent pour dire qu'il ne faut pas suivre la masse, etc. Et pour moi, ça montre qu'il y a quand même un gros potentiel de gens qui ne veulent pas suivre la masse. Et je trouve ça encourageant parce qu'en fait, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais il y a des gens autour de nous ou ailleurs, même en disant juste à une personne qui fera beaucoup mieux que nous, peut-être en diffusant, en disant en mettant les choses, pour que les choses deviennent claires dans la vie des gens, quoi, je veux dire. Voilà.
Je suis 100% d'accord avec vous. Et effectivement, il y a dans tous les pays, en Israël, on a eu un professeur de très haut niveau, figurez-vous, mais j'ai honte de le dire, qui s'est révolté contre l'accélération du vaccin en Israël. Ils lui ont enlevé tous ses diplômes de médecin. Il n'est plus rien aujourd'hui. Je pense même en France, ils n'oseraient pas faire une chose pareille. Ils lui ont enlevé ses diplômes de médecin. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Un grand professeur d'un grand hôpital à Haïfa. Donc, ça veut dire qu'il a été contre le système, ils l'ont liquidé. Donc, ça veut dire, comme vous le dites, évidemment qu'il y a partout dans le monde un potentiel de prise de conscience et de révolte absolument incroyable. Je dirais, pour ajouter, pour amener dans le sens du cours d'aujourd'hui, que ce qui manque, c'est un leader qui arrive à réunir toutes ses forces. Et je pense que ce leader sera le Mashiach, qui va arriver dans tous les pays à réunir toutes les forces contraires au système et de le regrouper avec lui et de foncer contre le mal. Parce qu'aujourd'hui, comme le professeur que vous avez en France, enfin vous êtes en Belgique, vous mettez en France le professeur Raoul, etc., et combien d'autres, il y en a eu plusieurs en France qui se sont révoltés, etc., qui ont compris que tout ça, c'était une combine, bon bref, rentrons pas dans les détails. Mais je veux dire, on les a vite éteints, tous ces gens-là. Raoul, aujourd'hui, il a plus grand-chose à dire. Hein. Et pourquoi ? Ben évidemment, parce qu'il vendait un médicament qui valait 3 euros, alors que le vaccin, il a rapporté des milliards. Oui. Donc, c'est qu'une question de pognon, tout ça. C'est tout ça. C'est le fric. Qui dirige le monde ? C'est le fric, en vérité. Il n'y a que ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens partout qui prennent conscience de tout cet abus qu'il y a dans le monde au niveau des forces dirigeantes. Évidemment. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas réunis. Il y en a un ici, il y en a 10 là-bas, il y en a 100 là-bas, mais il va falloir une force qui réunit tous les hommes et toutes les femmes authentiques qui sont dispersés dans le monde entier. Et ça sera le premier travail du Mashiach, de réunir autour de lui toutes ces forces qui sont à contre-courant pour en faire une véritable armée qui se battra contre le mal. Vous comprenez ? Parce que, à part le Mashiach, le premier qui oserait faire une chose pareille, il prendrait une balle dans la tête. Pourquoi le Mashiach ne sera pas assassiné ? Encore une fois, je veux dire, qui vivra verra. On va voir comment lui va se débrouiller pour ne pas être assassiné. Voilà, Jean-Luc. Oui, ouvrez votre micro, voilà. Oui,
j'avais une question, ou plutôt j'avais écouté une fois dans un de vos cours, le Narash, c'est la même racine que Mashiach.
Oui, la même valeur numérique que Mashiach.
La même valeur numérique. Ouais. Le Narash fait partie du plan d'Hachem.
Bien sûr.
Le Mashiach aussi. Et tout est pour affiner le tout au fur et à mesure. Donc, il aura quand même des pouvoirs.
Je viens de mettre un cours, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, mais je crois aujourd'hui, où je parle de cette notion-là. J'ai mis un cours sur le site où j'explique qu'en vérité, que tout le processus du monde, c'est que le mal se transforme en bien. Oui. C'est pour ça que la valeur numérique du serpent, c'est la valeur numérique de Mashiach, ce qui est de la folie. Comment le Mashiach peut avoir la même valeur numérique que le serpent, pour nous faire comprendre que finalement, tout le but du Mashiach, c'est de transformer le mal en bien. Ce n'est pas de détruire le mal. c'est de le ramener vers le bien. Vous comprenez ?
Oui. De plus, en parlant des miracles, pareil, un de vos anciens cours, mais je ne pourrais plus dire quand, j'espère avoir bien compris, enfin pas sûr, où vous parlez en fait que la nature, ayant été formée par Hachem, mais longtemps, longtemps avant notre Terre ou notre univers, tout était programmé à l'avance. Et que la nature, en fait, ce n'était pas des miracles, c'est Hachem qui avait programmé, exemple, que l'eau puisse aussi être en glaçon, puisse aussi être, et donc manipulable.
Absolument.
Et en vérité, la nature est manipulable, en fait.
Pour confirmer ce que vous dites, évidemment, les savants ne le savent pas aujourd'hui, bien que certains commencent à avoir des doutes à ce niveau-là, mais la nature elle-même, ayant été créée par Dieu, est remplie d'énergie spirituelle inimaginable. C'est-à-dire que la vraie nature, nous, on ne connaît que l'extériorité, que la vitrine, mais la vraie, vraie, vraie nature, avec toutes les énergies spirituelles que Dieu a mises en elle, la vraie nature est capable de se transformer, comme vous le dites, complètement dans des domaines complètement invraisemblables, qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui. Vous comprenez ?
Le Mashiach, il aura toutes ces connaissances-là.
Je pense qu'au fur et à mesure, le Mashiach arrivera à maîtriser la nature. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça, c'est une réponse finalement à mes questions sans réponse. Comment il arrivera peut-être à sauver sa vie ? Peut-être que justement, il aura une capacité de manipuler la nature qui le protégera. Ça veut dire que, par exemple, si on lui envoie un drone, il sera capable de le transformer en ami et non en ennemi. En découvrant des énergies qui sont dans le drone que lui arrivera à manipuler pour le retourner contre ceux qui voulaient le tuer. Vous comprenez ? On peut le comprendre comme ça aussi. Ce n'est pas exclu du tout qu'il aura une compréhension de tous les secrets de la nature qui lui permettront de retourner la nature contre ses ennemis. Oui, absolument. Ben, vous savez, regardez, je vais vous donner un exemple. Simplement, avec votre permission, il est déjà chez moi 9h30, encore quelques minutes et on va arrêter parce que j'ai le droit de vous dire que je suis épuisé, que c'est mon troisième cours aujourd'hui, je suis mort. Mais bon, donnons un exemple. Regardez les miracles que Moshe fait en Égypte. C'est des miracles surnaturels. Il amène des sauterelles, il amène des bêtes sauvages, il transforme l'eau en sang, ça veut dire en couleur rouge, peut-être qu'il y avait de l'argile dans le Nil qui l'a fait monter à la surface. Trouvez-moi un miracle complètement surnaturel que Moïse a fait en Égypte. Moi, je n'en connais pas. La mort des premiers-nés, ça peut être une épidémie qui touche uniquement les premiers-nés. La mer Rouge, j'en ai déjà parlé, c'était le vent qui a soufflé sur l'eau. On croit qu'il a fait des miracles en Égypte, mais que tous les miracles, ils ont un support naturel inimaginable. Il fait venir les sauterelles, il fait venir les bêtes sauvages, il fait venir la lèpre, il fait venir la mort des premiers-nés, etc. Mais tout ça, ça peut s'expliquer sur le plan naturel aussi. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est exactement ce que vous dites, et pour ça je dis bravo, que Moshe avait une connaissance de manipuler la nature à l'avantage d'Israël contre l'Égypte. Mais c'est une manipulation de la nature, ce n'est pas des miracles dans le sens religieux du terme, un truc surnaturel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a eu la grêle, voilà la grêle. C'est quand même tous les miracles de Moïse en Égypte, c'est l'utilisation de la nature contre les Égyptiens. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est que lui avait une connaissance des énergies cachées dans la nature qu'il a su récupérer et manipuler contre l'Égypte. Mais ce n'est pas des miracles dans le sens religieux du terme. Le vrai miracle, c'est la capacité d'utiliser la nature contre les ennemis. Vous voyez ? C'est le vrai miracle. Parce que la nature elle-même contient des énergies spirituelles que nous ne connaissons pas et que quelqu'un de très, très grand découvre et arrive après à utiliser et à manipuler comme il le veut. Voilà.
Rav, on fait une différence entre le rocher qui a donné de l'eau et la manne qui est descendue du ciel pour le peuple par rapport à ce qui a été fait contre les Égyptiens.
On peut faire alors, là, vous me faites rentrer dans un champ de mine.
Désolé.
Alors là, je vais faire attention que je vais mettre mon pied. Évidemment, quand vous lisez la Torah et que vous regardez que la nourriture descendait du ciel et que l'eau sortait du rocher, eh bon, alors là, vous me direz, là, vous êtes contredit, là, parce que là, c'est de vrais miracles, d'accord. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Les choses ne sont pas si simples que ça. La manne, ce n'était pas de la nourriture qui descendait du ciel. La preuve, regardez dans les versets. Tous les matins, il y avait de la rosée. Et sur la rosée, il y avait une forme de nourriture qui, après, donnait à manger aux Juifs dans le désert. Mais la Torah ne nous dit pas clairement qu'elle descendait du ciel. Elle se trouvait posée sur la rosée. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire man? Man, en hébreu, veut dire qu'est-ce que c'est? Et qui a dit qu'est-ce que c'est? Ce sont les Juifs. Quand ils ont vu ça, ils ont demandé à Moshe, qu'est-ce que c'est? Et le mot qu'est-ce que c'est en hébreu se dit man. Donc, c'est une nourriture mystérieuse. On ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Maintenant, l'eau qui sort du rocher, ça, c'est déjà plus compliqué. Mais je ne crois pas qu'elle sortait du rocher comme on le lit au niveau du sens littéral dans la Torah. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais je reste avec beaucoup d'humilité sur votre question. J'essaierai de faire une recherche et une étude. C'est vrai que ce qui semble être le miracle, le plus miraculeux dans le sens religieux du terme, c'est effectivement l'eau qui sort du rocher. La manne m'impressionne moins, mais l'eau qui sort du rocher, c'est déjà plus impressionnant. Mais on fera une recherche et je trouverai une réponse.
Surtout que le rocher bougeait avec le peuple.
Oui, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracle, je dis que tous les miracles, tels que nos maîtres nous l'expliquent et tels qu'on le voit dans la Torah, se cachent à travers une vitrine naturelle. Ils se cachent dans une vitrine naturelle. D'accord ? Voilà. Maintenant, vous avez posé une excellente question qui me laisse sans réponse, l'eau qui sort du rocher. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, je n'ai pas de réponse immédiate. Voilà. Voilà, mes amis, écoutez, je voudrais prendre congé. Je demande à François de me recontacter au plus vite pour qu'on fasse une nouvelle date, parce que comme vous le savez, j'ai des cours pris à l'avance sur des mois, donc il faut absolument me recontacter, peut-être même la semaine prochaine, pour qu'on fixe une nouvelle date, dans pas trop longtemps, d'accord ? Voilà, bien que, attention, le problème c'est que à partir du 18 juillet,